Pour cette seconde carte blanche de Civis Podcast en cette période de confinement, c'est Daniel QF, le maire de Langouette, qui nous présente sa façon de faire face au coronavirus en tant que maire d'un village. Il nous présente également sa vision de la reconstruction qu'il est nécessaire d'opérer, principalement en ce qui concerne le retour au local, dans l'alimentation notamment. Daniel QF est une figure de l'écologie française. Il est le premier maire à avoir pris un arrêté d'interdiction des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Langouette, le village dont il est maire, est pionnier dans l'écologie sociale, avec une cantine 100% bio, des logements durables et une certaine autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires qui fournissent l'électricité des bâtiments publics et une partie de celle des habitants. Il a sorti un ouvrage récemment, « Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse », édité chez Indigène, et dans lequel il retrace son combat en justice pour défendre son arrêté anti-pesticides. Nous espérons que cette carte blanche vous plaira et nous permettra collectivement de réfléchir au monde amené à naître après le confinement.
Bonjour, nous sommes le 12 avril 2020. Je parle à partir de la petite commune de Langouette dont je suis le maire, par décision d'ailleurs du gouvernement de prolonger nos mandats partout en France en raison du confinement. Alors ce confinement, évidemment, nous le vivons de façon personnelle avec toutes les difficultés que les uns et les autres pouvons rencontrer partout en France. Mais dans notre petit village aussi, nous avons quelques difficultés particulières, notamment avec nos jeunes qui supportent très très difficilement le confinement. Et je compatis en particulier avec ces jeunes qui doivent se trouver aujourd'hui dans les cités où l'espace n'est pas très grand et où le confinement doit être encore plus difficile à vivre qu'à Langouette. Nous avons aussi quelques soucis avec quelques enfants dont nous n'arrivons pas à reconnecter avec l'école depuis que l'école a été fermée en raison du confinement. Nous n'arrivons pas à les doter du matériel informatique nécessaire pour faire des apprentissages à distance. Ils ne viennent pas non plus chercher les apprentissages papier qui sont pourtant à leur disposition. Donc, comme toute crise, elle révèle là encore des difficultés, notamment pour ce qui nous concerne, des difficultés éducatives, une injustice éducative. Et ces enfants qui sont hors de portée de radar aujourd'hui de l'école vont évidemment perdre beaucoup en termes d'apprentissage fondamentaux, mais aussi en termes de travail coopératif dans les classes de la commune. Ceci étant, nous avons aussi, à la faveur de la crise, découvert beaucoup de solidarité dans notre village, et en particulier la solidarité vis-à-vis des anciens. Les familles sont vraiment très présentes auprès de leurs aînés, les voisins sont aussi extrêmement attentifs, et nous avons là une protection de la population par soi-même, par elle-même, qui est extrêmement réjouissante et extrêmement positive quand il s'agit évidemment de solidarité. Nous avons aussi beaucoup d'initiatives, notamment autour de notre bibliothèque municipale qui multiplie les opérations à distance pour faire partager un certain nombre de dessins animés, un certain nombre de petites émissions pour les enfants également sur la philosophie par exemple, de travailler aussi sur des masques à fabriquer par soi-même, des masques de protection pour nous préparer au déconfinement qui sera nécessaire que chacun puisse se procurer un masque et le fabriquer par soi-même si c'est possible. Nous avons des fiches de fabrication qui sont tout à fait efficaces et aujourd'hui validées par les médecins pour protéger vraiment, vraiment chacun de nos citoyens. Donc situation complexe. Situation difficile, nous survivons à la situation comme tout le monde. Il est prétentieux aujourd'hui, il serait même indécent je dirais de dire mais qu'est-ce que sera cette sortie du déconfinement, qu'est-ce que cela va nous apprendre sur notre société, est-ce que nous allons changer notre société enfin, est-ce que nous allons aller vers une société décidément plus écologique, moins productiviste. Nous n'en savons rien, personne n'en sait rien. Ce que je veux simplement dire, témoigner ici, c'est qu'il y a une sorte de conscience sociale importante qui se base sur un fait pratico-pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir manger, il faut pouvoir aller faire ses courses. C'est tout bête. Mais si nous sommes dans l'impossibilité d'aller faire nos courses, si les marchés, supermarchés ne sont plus approvisionnés, nous ne pouvons plus manger. Et donc il y a là une prise de conscience de la dépendance des gens avec le commerce et avec une alimentation dont ils ne sont plus du tout autonomes. Une grande partie des habitants de Langouette, habitant pourtant à la campagne, ayant pour la plupart un jardin, ne savent plus faire le jardin potager, ne savent plus cultiver par eux-mêmes et ont totalement perdu toute connaissance sur l'art et la manière de produire pour soi-même des fruits et des légumes. Il y a quelques habitants dans la commune, 10, 12 je pense, qui eux par contre sont depuis toujours autonomes sur le plan alimentaire, en tout cas en fruits et en légumes, peut-être parfois en volaille également. Et ces personnes doivent nous apprendre beaucoup aujourd'hui sur notre devenir pour essayer de faire en sorte que nous puissions les uns et les autres réapprendre à être plus autonomes sur le plan alimentaire. La deuxième chose qui frappe aussi les gens et qui devient une conscience un peu partagée, c'est que l'agriculture locale, qui est très développée dans notre secteur, bien évidemment, puisque nous sommes un village en milieu rural, cette agriculture locale, en grande majorité, ne nourrit pas localement. Cette agriculture est totalement dédiée à un circuit agroalimentaire. Les matières premières, viande, lait, partent, fruits, légumes, partent à l'extérieur, partent sur la route, partent dans des unités de transformation qui ont une certaine difficulté aujourd'hui à nous livrer par une logistique qui, pour l'instant, fonctionne, mais dont on voit bien qu'elle est extrêmement tendue, qu'elle procure aussi des difficultés de travail, notamment pour les routiers qui sont aujourd'hui vraiment dans des situations de travail tout à fait épouvantables sur la route, mais qui, malgré tout, bon an, mal an, arrivent à nous livrer. Donc nous voyons qu'il y a une sorte de paradoxe d'avoir une agriculture locale très importante qui ne nourrit pas localement et qui fait que les matières premières étant sur la route ont du mal à nous revenir en matières premières transformées, notamment. Pour le coup, les gens regardent autrement, c'est-à-dire redécouvrent, revisitent, redeviennent clients beaucoup plus fréquents, notamment des magasins à la ferme, notamment des productions à la ferme, notamment des productions locales. Et on voit naître ici ou là des applications, des réseaux, des bons plans, des bonnes adresses pour consommer local, justement. Et donc il y a quelque chose qui se joue là, je pense, dans l'imaginaire, mais surtout dans la réalité que vivent les gens, c'est de se dire, mais bon sang, il nous faut absolument une agriculture de proximité qui puisse nous nourrir de façon proche, surtout quand on voit ce qui se passe avec une crise qui, justement, met à mal ou en tout cas perturbe très fortement la logistique. L'autre situation qui commence à être beaucoup plus prise de conscience, beaucoup plus importante, je dirais, c'est que comment se fait-il que nous puissions nous vanter d'avoir une agriculture qui exporte à ce point, qui exporte dans le monde entier, comment ça se fait qu'on puisse trouver normal que une agriculture bretonne en particulier puisse produire en grande quantité des cochons bretons après avoir pollué l'eau, l'air et le sol et transporter l'ensemble de ces cochons en Chine où ils sont, paraît-il, prisés. Donc c'est une situation complètement aberrante. Et comment se fait-il que des pays à qui on a obligé aujourd'hui une monoculture en Afrique sur le cacao, l'huile de palme, enfin tout un tas, les cacahuètes, le café, le chocolat, qui nous fournissent abondamment de ces produits dont nous raffolons, et qui, pour le coup, se trouvent dépendants de notre propre agriculture, puisque n'ayant pas eux-mêmes dans ces pays-là trouvé les moyens d'avoir justement une agriculture vivrière locale, sont obligés, sont contraints, je dirais, par le marché, à venir acheter des produits bretons. Donc il y a une panne là, une panne vraiment du système, de la mondialisation, de la spéculation alimentaire, des échanges internationaux à tout va, où à force de tout mettre sur la route et de tout mettre à la spéculation, eh ben nous finissons par nous retrouver en difficulté pour nous nourrir localement et nourrir toutes les régions d'Europe localement. Donc nous devrons, je crois, à l'avenir de toute façon, revisiter très fortement le rapport qu'il y a entre l'agriculture, l'agroalimentaire et le consommateur. Nous devrons absolument revisiter tout ça. Ça ne veut pas dire évidemment que nous allons renoncer complètement aux échanges internationaux, mais nous devons les revoir sur leur vraie utilité et non pas sur des systèmes aujourd'hui aberrants où nos cochons de Bretagne sont nourris par du soja OGM en plus qui nous vient du Brésil. Tout ça ne peut plus durer. Ceci étant, que va devenir l'agroalimentaire breton, pourvoyeur de beaucoup d'emplois? Nous ne pouvons pas rayer comme ça d'un trait de plume tous ces emplois qui aujourd'hui fondent ce qu'est la Bretagne. Il ne faut pas oublier que après la guerre, la Bretagne était très pauvre, l'agriculture bretonne était très pauvre, les agriculteurs, les hommes étaient pour beaucoup morts sur le front. Il fallait mécaniser, il fallait absolument moderniser l'agriculture bretonne. Il fallait aussi, par une mécanisation importante de l'agriculture, permettre de trouver de la main-d'œuvre pour l'industrie. Donc c'était une époque où cette nécessité, je dirais, de souveraineté alimentaire pouvait s'imposer d'un point de vue politique. Elle a été décidée d'un point de vue politique, avec comme première décision politique, c'est-à-dire de subventionner l'agriculture pour avoir les prix les plus bas possibles à la consommation. Donc c'est une agriculture subventionnée que nous avons aujourd'hui, une agriculture qui vit assez mal, puisque un tiers, je dirais, des agriculteurs aujourd'hui, selon les chiffres de la MSA, Mutualité Sociale Agricole, gagnent moins de 350 euros par mois. Les endettements sont importants, les suicides sont une catastrophe aujourd'hui en agriculture conventionnelle, ça ne peut pas durer. Donc cette course au volume, pour fournir l'agroalimentaire qui exporte, a eu comme conséquence évidemment le remembrement, c'est-à-dire la destruction de beaucoup de bocages, avec tout ce que ça comporte comme impact négatif sur la biodiversité, mais aussi l'usage des pesticides de synthèse, parce que l'usage des pesticides de synthèse correspond typiquement à une mécanisation importante, une diminution du nombre d'agriculteurs. Pour pouvoir cultiver et avoir les rendements qu'il faut pour l'agroalimentaire, il faut absolument ces pesticides. Et donc, toucher aujourd'hui aux pesticides, c'est toucher au rendement. Et il faut toucher à ces rendements qui sont aujourd'hui complètement aberrants, puisque l'on surconsomme et on transportent sur la route pour d'autres pays des marchandises qu'elles n'ont pas besoin ou en tout cas qu'elles gagneraient à produire sur leur propre sol, dans leur propre région. Donc nous avons là une vraie difficulté pour changer de modèle, et je crois bien que pour commencer à changer de modèle, il faudra commencer à agir très fortement sur l'interdiction, pour être clair, l'interdiction des pesticides de synthèse, si dangereux pour la santé humaine, à la fois celle des riverains, mais aussi celle des agriculteurs, et si nocif pour la biodiversité. Il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une agriculture et une industrie agroalimentaire qui soit aussi impactante sur le plan écologique. Donc il va nous falloir revoir. Je propose un challenge à l'industrie agroalimentaire bretonne et à l'agriculture bretonne, dans le cadre que je viens de fixer. Et si nous essayons, ensemble, collectivement, comme nous avons su le faire très souvent en Bretagne, changer de paradigme et proposer une agriculture qui soit, et une industrie agroalimentaire, qui soit en économie circulaire à impact positif. Économie circulaire, ça veut dire que nous renonçons à ce que cette industrie, dans son process commercial et industriel, puisse perdre, à quelque moment que ce soit, quelque élément de la matière première stratégique. Je pense en particulier à toute la matière première stratégique dont nous avons, qui nous est absolument nécessaire pour les emballages, pour les conserves, c'est le fer, c'est l'aluminium, c'est le papier, c'est le carton, c'est le plastique. Tout ça, ce sont des éléments qui rendent dépendant notre agriculture de l'extérieur. Est-ce que nous ne pourrions pas travailler sur une économie circulaire qui fasse qu'il y ait zéro déchet, qu'il y ait récupération à 100% de la matière première stratégique? Et surtout, est-ce que nous pourrions avoir une réflexion sur cette matière première qui est essentielle à notre industrie agroalimentaire, qui sert souvent d'ailleurs pour le transport? Donc là aussi, ça peut poser une question de fond. Et est-ce que nous pourrions retravailler avec les entreprises sur ce sujet-là? Donc, économie circulaire, c'est une évidence. Économie circulaire a un impact positif. Ça, c'est un paradigme peut-être plus nouveau, où il s'agit de dire, est-ce que je peux avoir une agriculture, une industrie agroalimentaire qui n'ait aucun impact négatif sur l'environnement, mais en plus de n'avoir aucun impact sur l'environnement et la santé, puisse apporter un éco-bénéfice, c'est-à-dire avoir un bénéfice pour l'environnement et la santé. Il ne faut pas croire que cette idée soit aussi absurde que cela, puisque déjà dans le monde, des entreprises travaillent sur ce concept d'économie circulaire impact positif. Je pense en particulier au parc 2020 à Amsterdam. Je pense également à la grande société Target, qui, dans une démarche qu'ils ont appelée Cradle to Cradle, du berceau au berceau, essayent dans leur process industriel de conserver 100% de la matière première stratégique qui est tout le temps recyclée à l'infini, sans perte. Rien ne va à l'incinération, rien ne va à l'enfouissement, rien n'est perdu. Donc nous avons là un challenge. C'est un challenge très compliqué, puisque nous n'avons pas les chemins certains pour y arriver. Mais la Bretagne a une de ses capacités extraordinaires, c'est que à partir du moment où elle définit des challenges, la plupart des acteurs décident de foncer dans ce challenge parce que c'est une sorte d'évidence et chacun y apporte une pierre, chacun y apporte sa contribution, chacun y apporte sa solution, et la Bretagne sera en mesure de lever ces défis et de devenir la première région agricole de France et d'Europe en économie circulaire à impact positif, et je crois que nous pouvons être certains que cela va se produire.
Merci à Daniel QF pour cette carte blanche passionnante. De nouvelles cartes blanches seront bientôt disponibles dans les semaines à venir. Mais en attendant, vous pouvez toujours retrouver la première carte blanche réalisée par Dominique Meda sur le thème de la reconstruction écologique. Elle est disponible sur toutes vos plateformes de podcast.